If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de Parents Informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 33e épisode, je reçois Rokhiya Hossein, psychomotricienne et formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Elle est également l'autrice du livre « L'hygiène naturelle infantile, se passer des couches dès la naissance », sorti en mai 2021. En ce mois de juin, la question de ce qui est communément appelé la propreté chez les enfants est au centre des préoccupations des parents dont les enfants entrent à l'école en septembre prochain. Mais vous allez vite comprendre que la question concerne beaucoup plus de parents, d'enfants et même de bébés. Dans cet épisode, Rokhiya explique d'abord les différentes notions de propreté, continence, besoin d'élimination et leurs liens étroits. Elle nous détaille comment verbaliser ce qui se passe dans le corps des bébés et des enfants afin qu'ils s'approprient ces sensations pour être en mesure d'en tirer une action. Elle nous explique également à partir de quel âge introduire ces notions et cela est bien plus tôt que ce qu'imaginent la plupart des parents, moi y compris. Elle présente les avantages et inconvénients des dispositifs d'accompagnement, à la fois concernant les pots et réducteurs, mais également les culottes, couches-culottes et culottes d'apprentissage. Rokhiya nous explique ce qu'est la notion d'HNI, hygiène naturelle infantile, comment la mettre en œuvre avec son bébé et comment faire lorsque celui-ci est gardé par une tierce personne. Enfin, elle aborde la question de la continence nocturne. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Rokhiya.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Merci de m'avoir invitée.
Avec toi, on va parler de propreté ou plutôt de continence. D'après ce que j'ai vu, tu vas nous expliquer la différence et pourquoi il y a deux mots. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Rokhiya, je suis psychomotricienne. Et je suis également formatrice pour les professionnels de la petite enfance, de la parentalité et de la santé concernant justement la question de l'hygiène naturelle infantile, donc plutôt l'accompagnement vers la continence. Je suis également autrice et j'ai sorti un livre là au mois de mai qui s'appelle donc « L'hygiène naturelle infantile ».
Ok, on va y revenir tout à l'heure sur l'hygiène naturelle infantile pour que tu puisses nous en dire un peu plus. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner la différence entre cette notion de propreté et cette notion de continence ?
Alors, il faut bien s'entendre que la propreté, c'est un peu le mot qu'on connaît tous. Hein, quand on associe enfant côté, ben, on sait qu'on parle de tout ce qui est autour de l'apprentissage du pot, des toilettes. Personnellement, moi, je préfère parler du besoin d'élimination, pour moi qui comprend l'action d'uriner et de déféquer. Et la continence, ça, c'est vu plutôt comme un processus. Donc, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs prérequis qui vont devoir être, avoir lieu pour accompagner son enfant justement vers une continence. Et là, je rajoute vraiment en autonomie.
D'accord. Oui, parce que finalement, le besoin d'élimination, il est tout le temps. Dès que le bébé naît, il a besoin d'éliminer. Et pour autant, on parle de cette notion de, alors qu'on appelle propreté dans le langage courant, effectivement, c'est l'acquisition de cette compétence, mais en autonomie par l'enfant.
C'est bien ça.
Ok. Et justement, à partir de quel âge on peut introduire cette notion d'autonomie dans l'élimination pour les enfants ?
C'est une question très intéressante, dans le sens où, il y a encore quelques années, c'était à partir de 18 mois qu'on proposait le pot, et pas comme aujourd'hui, où l'introduction du pot ne fait que reculer. Donc, en 1970, il était courant de recommander le pot à 18 mois et l'apprentissage, entre guillemets, prenait fin à 24 mois. Ça veut dire qu'à 24 mois, l'enfant était suffisamment autonome.
Et comment on explique ce recul ?
Alors, ce recul peut être expliqué du fait qu'il y a parfois certaines idées reçues, justement sur l'âge de départ. On suppose qu'il y a certains prérequis, mais qui n'ont pas forcément de fondement.
D'accord.
Comme par exemple la fameuse montée de l'escalier, qui est un petit peu vieux et obsolète, alors que justement l'enfant, et son besoin d'élimination a toujours été là. C'est juste qu'il n'était pas en mesure de se rendre tout seul sur le pot. Voilà, très tôt, il est capable de communiquer, il est capable de sentir ce qui se passe dans son corps. Néanmoins, il ne sait pas à quoi ça correspond. Les tensions, la lourdeur, et en posant des mots, en observant, en interprétant, et bien sûr, verbalisant ce qui se passe, là, on peut accompagner son enfant petit à petit dans le processus de la continence.
Ok, du coup, comment on fait pour repérer chez notre enfant qu'il est prêt ? C'est quoi les signes qui nous montrent que notre enfant, il est prêt à aller vers cet apprentissage ?
Alors, en fait, c'est intéressant. Parce que le bébé, il est physiologiquement prêt à éliminer ses urines dès la naissance. Donc, en fait, il faut revoir vraiment la base. D'ailleurs, il n'émet pas de sel lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Tout d'abord, l'enfant ne peut être prêt à quelque chose s'il n'y est pas confronté ou stimulé par l'environnement. Voilà, on va justement donner l'exemple facile. L'enfant ne saura pas monter les escaliers s'il n'a pas l'occasion de monter les escaliers. Il ne saura pas monter le toboggan à l'envers si on lui interdit de vivre cette expérience. Et justement, ce qui est au niveau du développement de l'enfant, c'est qu'il est essentiel de retenir que la formation des connexions neuronales, elle est influencée par les expériences. Et en fait, les neurones, elles vont se connecter en réponse aux stimulations de l'environnement de l'enfant. Donc, à chaque fois qu'il va faire une nouvelle expérience, une nouvelle découverte, les connexions vont se former, elles vont se renforcer ou au contraire, elles vont s'affaiblir et disparaître dans le cas contraire.
D'accord.
En fait, toutes les connexions, elles vont se développer, renforcer ou éliminer. C'est vraiment ça à retenir. Et pour cela, les chemins qui sont privilégiés sont l'expérience vécue et la répétition de l'expérience. Donc, en fait, plus en fait, on va communiquer avec l'enfant, plus on va lui proposer, plus en fait, ces chemins ils vont se renforcer.
D'accord. Donc, ça veut dire que très tôt, on peut lui proposer d'avoir un pot quelque part dans la maison et de l'accompagner à aller sur ce pot, de lui expliquer ce qui peut s'y passer et de lui expliquer quand on lui change la couche que c'est ce type d'élimination qui va normalement dans le pot et tout ça.
C'est bien ça, en fait. Dès qu'il a des propositions et donc de la stimulation, peu importe l'âge, en fait, les connexions vont se mettre en place avec l'expérience vécue et répétée.
Quels sont les mots qu'on peut employer pour lui expliquer ce qui se passe dans le corps quand il y a un besoin d'élimination, justement ? Quels sont les signes qu'on peut lui transmettre pour qu'il arrive à reconnaître ce besoin-là ?
Alors, c'est vrai qu'il faut pas mal verbaliser et donner du sens sur ce qu'il perçoit. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, il reçoit des informations sensorielles qui sont brutes. Donc, en fait, soit qu'elles proviennent de l'extérieur, comme un bruit, une stimulation visuelle, ou bien de l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, ça peut être des tensions, une lourdeur, des picotements, des chatouilles, à l'intérieur de son corps. Et ces informations sensorielles brutes, elles sont en l'état, ce qu'on appelle des perceptions. Elles n'ont pas encore du sens. Donc après, elles vont se transformer en sensations. Dès qu'on met du sens, les parents ou toute autre personne de son environnement, ils vont l'aider à y mettre du sens en verbalisant. Donc, par exemple, pour le bruit, on peut dire « Ah, le bruit que tu as entendu, c'est la sonnette. » Et pareil, du coup, pour le besoin d'élimination, bah, la tension dans ton ventre, ça veut dire que tu as besoin de faire caca. Tu sens que c'est lourd, tu sens que ça picote, que ça chatouille. À cet endroit-là, en fait, il faut donner le maximum de vocabulaire. Et pour être ça, il faut aussi un peu se connaître soi-même pour pouvoir transmettre les mots à son enfant.
Oui, donc il faut analyser quelque part quelque chose qui est devenu intuitif chez nous pour pouvoir le transmettre à l'enfant, c'est ça?
C'est ça, ouais. Développer sa conscience corporelle, elle se fait par la communication. On explique, on donne du sens, on met des mots.
On parlait du pot tout à l'heure. Est-ce que c'est le dispositif qui est le plus adapté pour les enfants? Parce que je sais qu'il existe des rehausseurs avec des marches, il existe des réducteurs de toilettes, mais quelque part, c'est pour quand ils sont plus grands, puisqu'il faut qu'ils arrivent à monter jusque-là. Quand ils sont petits, finalement, les toilettes, c'est haut pour eux. C'est une vraie barrière, non?
Tout à fait, justement. Même d'ailleurs, dès qu'on commence dès la naissance, on peut proposer un pot qu'on va poser sous les fesses de l'enfant, ou bien, dans ce cas, on va le porter d'une certaine manière, par exemple, au-dessus du lavabo, au-dessus des toilettes. Donc, j'ai mis pas mal de vidéos sur mon compte Instagram pour qu'on puisse visualiser. Et également des illustrations dans mon livre. En effet, le pot, ça va vraiment permettre la position dite physiologique, parce que ça va permettre l'enfant d'être en position accroupie. Ça veut dire qu'en général, ça veut dire qu'on a les genoux un peu plus hauts que le bassin, avec un appui au sol, ça c'est important pour les pieds, et on est également penché vers l'avant. Les avantages de la position sont nombreux, hein, donc ça va favoriser le relâchement des sphincters, par exemple la vessie peut plus facilement se vider. Il y a également un angle anorectal avec une ouverture de 35 degrés au lieu de 90, comme quand on est en position assise, et le côlon dans ce cas-là, il est pincé. Et enfin, le muscle va être plutôt aligné et il sera relâché. En plus, ça va permettre également de bonnes habitudes d'hygiène hein, dès le départ pour éviter, par exemple, les problèmes de constipation ou poussée qui forcent sur le périnée.
D'accord. Et est-ce que ce pot, il faut qu'il soit dès le départ mis aux toilettes ou pour l'enfant, peu importe, il peut être mis n'importe où dans la maison. L'important, c'est qu'il le voit, qu'il y pense, qu'il y aille régulièrement. Voilà. Est-ce qu'il faut associer ça à la pièce des toilettes comme c'est le cas pour nous adultes ou pas forcément?
Alors, pour certains enfants, ils auront besoin donc, d'un repère. Ça peut être un repère spatial qui est lié donc, à une pièce dédiée. Et d'autres, en fait, juste comme tu l'as mentionné, à un pot qui l'a en visualisation dans la pièce de vie pour que l'enfant se rappelle. Mais c'est quand même beaucoup de pression à mettre sur l'enfant pour se rappeler de tout ça. Du coup, c'est plutôt avant justement en fait d'être plutôt attentif et de lui proposer.
D'accord.
Donc c'est pas parce que l'enfant va voir le pot qu'il va forcément y penser. Par contre, dès lors qu'il est un peu plus grand et qu'il est en mesure donc d'anticiper, de planifier donc le fait par exemple de lâcher son jeu et d'aller se rendre au pot. Dans ce cas-là, oui, c'est beaucoup plus simple s'il est dans la pièce où il est. Comme ça, il n'a pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de pas à faire, il a juste à retirer son pantalon et sa culotte, par exemple, s'il en a une, et s'y asseoir.
Quelque part, c'est normal qu'en fait, même s'il a le pot à disposition, il ne pense pas à y aller. C'est à nous, en tant que parents, à l'accompagner là-dedans et à lui...
Après, ça va venir avec le temps. En fait, il sera de plus en plus à l'écoute de son corps. Il va reconnaître que là, ben, c'est le moment d'y aller et il pourra s'y rendre.
Quand on commence à s'intéresser, alors quand on a... des enfants qui ont été en couche auxquels on n'a pas fait attention à ce besoin d'élimination particulièrement jusqu'à un certain âge et qu'on commence à se renseigner sur le sujet, on trouve plein de kits de gommettes à coller pour féliciter l'enfant, de systèmes de récompenses comme ça. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que finalement ça fausse un peu l'apprentissage parce que quelque part en fait c'est normal d'aller au pot et d'aller éliminer. Est-ce qu'il faut favoriser cette récompense?
Alors, il y a des enfants qui ont besoin justement de renforçateurs, hein. Donc, notamment, je pense aux enfants neuroatypiques comme les enfants autistes. Donc, moi, je ne vais pas dire qu'il faut absolument les bannir, les renforçateurs. Mais en effet, bien que ça reste un besoin physiologique et que si l'enfant, justement, n'a pas eu l'occasion de le découvrir comme tel, c'est-à-dire un besoin primaire, hein, on parle vraiment d'un besoin primaire, celui de manger, pour lui, il va plutôt considérer ça comme une perte de temps. Et en plus, j'aime bien le rappeler, mais l'enfant, il a besoin de personne pour faire caca, personne pour faire pipi. C'est un besoin qui va se faire de lui-même. C'est plutôt une contrainte, parfois, pour lui, du fait de devoir lâcher son jeu, de devoir aller se rendre sur le pot. Donc, alors que quand c'est un enfant qui a plutôt été habitué à répondre à son besoin d'élimination, qu'on lui réponde depuis tout petit, pour lui, c'est, là, on va dire que ça devient plutôt naturel. Pour lui, c'est naturel d'avoir, de faire ses besoins dans un pot depuis tout petit. Du coup, pour les enfants qui ont été vraiment en couche depuis longtemps, ça peut être un petit peu plus conflictuel parce que c'est comme si ça sortait de nulle part.
Ok. Quand on a des bébés qui sont en couche, après on va parler de la HNI, mais quand on a des bébés et des enfants qui sont en couche jusque tard, est-ce que c'est intéressant à un moment donné de passer à la couche culotte et est-ce que ça peut favoriser l'apprentissage ou est-ce que finalement, tant qu'il y a un support quelque part qui va retenir les selles et les urines, ça ne va pas changer grand-chose?
En fait, on peut très bien mettre une couche et mettre une culotte en même temps. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer de la couche à la culotte. Voilà, ce n'est pas nécessairement l'un puis l'autre. Ça, par exemple, on peut très bien faire porter une culotte à la maison, une couche à l'extérieur et une couche la nuit, dans la même journée.
Ça ne va pas le perturber?
En fait, à partir du moment où on communique à l'enfant, on lui explique pourquoi on l'habille de telle manière. En fait, c'est un peu comme quand on explique à un enfant, bah, pourquoi là je te mets un manteau et là je ne te mets pas de manteau.
D'accord.
Voilà. C'est vraiment la base, c'est la communication et les explications pour mettre du sens en fait, à ce qui se passe autour de l'enfant. Justement dans cette nouvelle routine, si justement on essaie d'introduire une culotte. Et okay. Je pense peut-être qu'il faire un petit peu le point sur qu'est-ce que c'est qu'une couche culotte et une culotte d'apprentissage peut-être.
Oui, tout à fait.
Voilà. En fait, une couche culotte, c'est une couche plutôt absorbante, voilà. Mais dont l'objectif est d'éviter les fuites et garantir l'effet d'eau. C'est le même principe qu'une couche classique, une couche jetable. Mais sa particularité, c'est qu'elle a une ceinture 360 degrés élastique. En fait, donc elle s'enfile comme une culotte. En fait, elle s'enfile comme un pantalon, comme un short. Et en fait, on peut l'ouvrir sur les côtés pour la retirer, la déchirer ou la descendre. Comme ça, elle peut être encore réutilisable. Donc, en réalité, voilà, c'est comme un pantalon qu'on met à l'enfant. Donc, on peut mettre une couche culotte allongée, si encore petit, ou bien debout. Quant à la culotte, on précise bien, c'est un petit sous-vêtement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en cas d'accident, comme pour nous, si les vêtements ils sont trempés, on a généralement une flaque et la culotte, elle n'a pas pour objectif de retenir l'émulsion. Donc, la culotte est plutôt à recommander quand les enfants maîtrisent plutôt bien leurs besoins d'élimination. Alors, il y a une culotte intermédiaire qui s'appelle plutôt la culotte d'apprentissage. Voilà, c'est un abus de langage, culotte d'apprentissage, culotte de propreté, peu importe. En fait, quand elle est bien faite, il faut bien se renseigner. En fait, c'est ma préférée parce qu'elle a un système qui permet d'éviter les flaques, de glisser, de se faire mal et d'en mettre partout. Et ça peut être plutôt traumatisant pour l'enfant justement qui découvre voilà, ce qu'il vient de faire. En plus, il se fait mal derrière. Ce n'est pas bon pour lui. Donc, voilà. Par contre, on peut voir que le vêtement il est trempé et on peut le changer aussitôt. Et l'enfant peut constater que lui, il vient de faire tout.
Oui, parce que finalement, quand il a une couche, même si c'est une couche culotte, il n'a pas forcément cette sensation de « il s'est passé quelque chose ». Je suis mouillée, enfin, les couches, elles sont faites pour qu'ils sentent quasiment rien. Mmh. Donc, effectivement, quand on essaye de lui transmettre cet apprentissage de il y a du liquide qui sort, ça peut faire mouiller, etc. Quand il est en couche culotte, il ne va pas s'en apercevoir.
C'est ça. Alors, du coup, en effet, il y a des enfants, justement, quand ils vont découvrir ce que c'est que la miction, certains peuvent en être surpris. Ils ne savent pas qu'il y a des matières qui sortent d'eux, puisque finalement, ça a été un petit peu coupé. Du coup, il y a d'autres temps, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien continuer à mettre une couche sans problème. Mais par exemple, quand l'enfant va aller prendre sa douche, qu'on peut lui proposer justement d'aller faire pipi dans la baignoire, tout simplement, voilà. Là, il peut voir en fait ce qui se passe dans son corps sans en être effrayé, puis dans un cadre un peu sécurisant, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on va en parler, puis il regarde, on verbalise avec lui.
D'accord.
Ce que tu dis, c'est aussi très pertinent quand on pense souvent que l'enfant, il sait ce que c'est que de faire pipi quand il voit la conséquence, ça veut dire les urines et les selles. Or, en fait, le besoin d'élimination, c'est avant. Ça veut dire que ce sont les sensations d'abord internes. Parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Je veux dire, l'enfant, il ne sait même pas des fois qu'est-ce qui a été déclenché, comment ça s'est passé. Donc, quand on communique à l'enfant, ce n'est pas seulement sur le « après », c'est-à-dire sur finalement, la conséquence, également sur l'amont, comme tout à l'heure on l'a mentionné, tu sens que c'est un peu lourd dans ton ventre, ça te fait un peu mal peut-être au niveau des fesses, tu sens quelque chose. Et d'ailleurs, on peut très bien continuer avec une culotte d'apprentissage, même quand l'enfant sort et est à l'école, ou justement, bah, si jamais il lui arrive un petit accident, si on veut appeler ça comme ça, voilà, au moins, il n'y a pas de grosse flaque.
Oui, c'est plus quelque part, c'est plus facile à gérer pour lui et pour les personnes qui le gardent s'il a une culotte d'apprentissage que s'il a une culotte classique où il va falloir tout changer, tout laver, que ça va en mettre partout, etc.
En fait, la culotte d'apprentissage, elle a juste une épaisseur quelque part supplémentaire, un côté un petit peu imperméable, quand elle est bien faite, hein, je précise.
Est-ce que toi, tu as des marques que tu conseilles particulièrement? Est-ce que dans tes expériences ou dans tes retours de patients, il y a des marques qui se détachent dans celles qui sont bien faites?
Alors, moi, je pourrais conseiller le guide des couches lavables de Marianne Bertrel, un catalogue avec pas mal de marques qu'elle a testées et qu'elle recommande et qu'elle vend aussi.
Ok. Ça marche, je regarderai tout ça, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour les gens qui cherchent à se renseigner. J'ai une dernière question sur cette partie-là, après on va passer à la chenille. Comment on se comporte envers notre enfant quand justement il n'a pas réussi à aller jusqu'au pot et qu'il en a mis partout parce qu'on l'avait mis en culotte et que ben voilà, du coup on a une énorme flaque dans la maison. Comment à ce moment-là on verbalise avec lui ce qui s'est passé?
Alors, si nous, on a cru percevoir des petits signaux en amont, dans ce cas-là, ne pas hésiter justement à lui dire, par exemple, maman, elle a remarqué justement, ou je l'ai remarqué, que tu t'es arrêté de jouer un instant, tu avais un petit air concentré, puis tu as repris ton jeu. Peut-être qu'à ce moment-là, tu avais envie de faire pipi, mais tu n'étais pas sûre de toi. Moi, je pense qu'en général, c'est plutôt un signe. En fait, c'est plutôt partir vraiment sur l'amont, vraiment tout ce qui s'est passé avant pour que l'enfant, il prenne du sens. Enfin, il a du sens
d'accord.
Ce qui s'est passé. Parce qu'intervenir après, en fait, c'est pas volontaire. Si on perçoit après, on vraiment verbalise avant, ça peut être vraiment autour de l'anticipation, comme... après manger, là on va manger tous les deux, après manger je te propose qu'on aille au pot, moi maman de toute façon de son côté je vais également aller aux toilettes parce que en général c'est le moment idéal pour y aller. En fait voilà, en fait on met des routines, en fait on va sécuriser un petit peu son enfant.
Au début c'est intéressant de lui proposer d'y aller régulièrement pour essayer de sentir s'il se passe quelque chose ou pas.
Et alors il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a des routines de soins qui vont justement le sécuriser. C'est un petit peu comme nous aussi, on a nos propres routines de soins, c'est-à-dire le matin quand on se lève on va y aller, et puis après le repas en général on essaye d'y aller. Donc l'enfant lui il s'intègre dans cette routine, et en plus pourquoi après le repas c'est intéressant d'y aller, c'est parce que justement il est possible que le réflexe gastrocolique s'active. C'est le réflexe qui va permettre l'élimination des selles vraiment dans les 5 à 45 minutes après la première bouchée. Donc en fait, c'est le moment idéal, parce que si on laisse passer cette fenêtre-là, il se peut justement que ça soit un petit peu plus difficile et qu'il va attendre la prochaine fenêtre d'élimination. C'est cohérent, c'est pas mettre des routines pour mettre des routines. Alors, le matin, c'est pareil, normalement pendant la nuit, il y a une régulation qui lui fait plus ou moins, ça va dépendre de l'âge, mais le matin, c'est le moment idéal pour un enfant d'aller se vider sa vessie, par exemple. Du coup, c'est un moment qui est rassurant. Voilà, c'est un peu comme quand on va se brosser les dents tous les matins, on le met en place. Après, il y a d'autres moments dans la journée, bien sûr, il va sentir son besoin. Et dans ce cas-là, on parle sur les sensations aussi du corps.
D'accord.
L'un n'oppose pas l'autre, en fait.
Ok. Donc, depuis tout à l'heure, on parle d'HNI. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la HNI et en quoi ça consiste?
La HNI, ça veut dire hygiène naturelle infantile, pour ceux qui ne connaissaient pas le sigle. Et ça consiste à répondre aux besoins d'élimination de son enfant, du coup, pour l'amener vers la continuance son autonomie. Moi, j'aime beaucoup rappeler que la chimie, c'est Elimination Communication en anglais. Donc là, dans cette expression-là, on voit vraiment l'accent sur la communication entre le parent et son enfant, dans les deux sens. Moi, je parle notamment d'accompagnement du besoin d'élimination via la communication, vers la continence en autonomie. C'est vraiment long, car je mets en avant l'implication de l'environnement. Voilà, c'est-à-dire qu'on propose un environnement propice quand même à l'enfant, le parent, les personnes à qui est confié l'enfant. Et dans le processus de la continence qui, en fait, ne se fait pas seul. Voilà. c'est pas une acquisition qui arrive du jour au lendemain, c'est pas un apprentissage non plus, c'est en fait c'est un mélange des deux. Et on répond comment? Ben, en fait, en observant son enfant, en interprétant, en verbalisant, et puis surtout proposer. Et là, c'est un petit peu plus délicat. Autant avec un enfant plus grand, on se dit, bon, allez, je vais oser lui proposer le pot, je vais retirer son pantalon, etc. Mais autant un petit bébé, c'est oser retirer la couche pour proposer un lieu d'élimination, quel qu'il soit. Donc, un pot, un lavabo, des toilettes. Et c'est cela qui est plus difficile à mettre en place, en fait. Chez beaucoup de parents, c'est oser. Ne serait-ce qu'on retirer une minute la couche de son enfant. Pour...
Oui, parce que finalement, la HNI, on peut la pratiquer dès la naissance. On n'est pas obligé d'attendre que l'enfant ait un certain âge.
Exactement. Ça ne consiste pas à laisser son enfant sans couche toute la journée. On peut se passer de la couche au moment de l'élimination. Et dès la naissance, on peut très vite recueillir les premières selles, donc le fameux méconium, en tout petit pot, ou bien dans un pot de glace, hein, ou une serviette, après qu'on va jeter.
Et du coup, l'idée, c'est de repérer chez son bébé les signes qui vont montrer qu'il a un besoin d'élimination et à ce moment-là, du coup, d'enlever la couche et de lui proposer d'éliminer dans un endroit qu'on trouve propice, c'est ça? Et du coup, quels sont ces signes-là? Comment on fait chez son enfant pour repérer ces signes-là?
Alors, ils sont vraiment propres à chacun et il faut prendre en compte aussi qu'ils vont évoluer avec l'âge, les signaux.
D'accord.
Donc, quand je parle de signaux, c'est vraiment une communication. Ça veut dire que peut-être qu'au début, ça peut être une petite grimace, ça peut être une tension, ça peut être un regard dans le vide particulier. Puis après, avec le temps, il va avoir d'autres signaux. Et en plus, les signaux aussi, ils vont s'affiner grâce à la communication. C'est-à-dire quand le parent il va verbaliser à son enfant. Ah, mais là, quand tu regardes là, j'ai l'impression que tu m'exprimes un besoin d'élimination. Alors, l'enfant va dire, ah, en fait, quand je fais ça, mon parent, il comprend cela. Et du coup, il va le répéter. La communication, elle va vraiment dans les deux sens. Et les signaux, ils peuvent du coup changer dans le sens où l'enfant, il peut être vraiment initiateur, c'est-à-dire à partir du moment où le parent lui a montré, par exemple, les signes en langue des signes française, voilà, pipi, caca, peau, ben, l'enfant, il peut très bien s'en saisir après, alors qu'il n'a peut-être pas encore les mots. Quand on n'en fait pas quelque part un sujet tabou, qu'on n'en parle pas.
C'est intéressant parce que ça arrive, alors... Moi, je trouve que pour les mixtions, ça peut être plus difficile, en tout cas, de déceler les signes. Mais par exemple, ça arrive régulièrement qu'on voit un enfant qui montre des signes et qu'il a envie de déféquer. Et finalement, on n'a pas l'habitude d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on lui dit « Ah ben oui, j'ai l'impression que là, tu as envie de faire caca. » Mais pour autant, on n'en fait rien, en fait. C'est-à-dire qu'on le laisse faire caca dans sa couche et on le laisse faire son truc, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que ce serait intéressant d'enlever la couche et de l'accompagner dans un lieu, quelque part, pour que l'élimination, elle se fasse autrement. C'est ça?
C'est exactement ça. C'est vraiment le fait on n'en fait rien jusqu'à ce qu'on nous donne l'autorisation, quelque part, de proposer le pot parce qu'on a entendu qu'il fallait attendre qu'il ait 2 ans. Ah, bah, c'est marrant, dans les années 70, c'était 18 mois. On a entendu qu'il faut qu'il monte les escaliers, alors qu'en fait, là, devant nous, il est en train de nous signaler, en effet.
Et donc, c'est intéressant à ce moment-là de le verbaliser avec lui, de l'accompagner dans quelque chose pour que ça devienne une habitude quelque part et que ça commence à s'ancrer dès cet âge-là. Et ça peut arriver très vite parce qu'effectivement, un bébé qui a envie de déféquer, souvent, ça se voit en fait.
C'est ça. Et il y a pas mal de parents, par exemple, qui vont pratiquer quelque part la chenille que pour les selles. En plus, ça fait économiser quand même des couches.
Ouais, et puis c'est plus pratique, ça évite d'avoir à tout nettoyer derrière. On doit tous y trouver son compte, j'imagine. Donc ça, c'est les avantages, c'est que l'enfant s'approprie plus facilement son corps et ses besoins d'élimination. Il y a quand même quelques contraintes, j'imagine, de disponibilité du parent. De disponibilité de tout l'entourage quelque part. Est-ce que si on le pratique, il faut que ce soit pratiqué par tous les gens qui sont autour de l'enfant? Est-ce que, par exemple, s'il est gardé en crèche ou chez la nounou, il faut aussi que ce soit pratiqué? Ou est-ce qu'on peut ne le pratiquer qu'à la maison, par exemple?
C'est très intéressant parce que c'est comme un peu pour l'allaitement ou le cododo. Est-ce que l'enfant doit allaiter tous les seins qu'il voit ou bien est-ce qu'il doit dormir avec? Alors, en fait, non, justement, c'est pareil pour l'hygiène naturelle infantile. L'enfant, il va avoir son parent, on va dire, interlocuteur, en fait, avec qui il va privilégier la relation. C'est-à-dire, même au sein d'un foyer, il se peut qu'il communique avec un parent et pas l'autre. Parce qu'il a remarqué que les parents, entre guillemets, t'as la traîne. Non, je rigole. Que la communication est moins efficace parce que le parent interprète.
Il y en a un qui est moins volontaire, peut-être.
Aussi, je voulais pas forcément le dire. Mais voilà, l'idée, c'est que l'enfant, il repère justement les personnes avec qui il peut communiquer. D'ailleurs, en fait, c'est très intéressant parce qu'il va d'abord un peu essayer un petit peu avec tout le monde les premières fois. Et s'il ne réagit pas, il se dit « bon, bah, je l'élimine ». Voilà, c'est ça en fait. Et ça peut très bien marcher avec un parent et avec un des grands-parents et pas avec l'autre. Ça peut fonctionner très bien avec la nounou et pas justement avec, avec l'oncle ou la tante, etc. L'enfant, il va essayer peut-être et il va se rendre compte que bah, ça ne marche pas avec certains. Et bah, dans ce cas-là, de toute façon, l'enfant, il a toujours une couche en général.
Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment donné, si par exemple toute la journée il est avec des personnes qui ne sont pas réceptives et par contre le matin et le soir il est avec un ou, des, ou les deux parents qui sont réceptifs, est-ce qu'il y a un risque qu'ils se retiennent dans la journée de ne pas faire dans la couche pour pouvoir le faire le soir avec le parent?
Alors, ça peut arriver. Et ça reste un besoin physiologique. Donc voilà, normalement, quand il est en de bonne disposition, il fera quand même. Après, c'est vrai que quand il est dans une couche et qu'il n'a pas de peau et qu'il a eu l'habitude d'être bien positionné, il se peut justement qu'il se rappelle que ce n'est pas facile pour lui de faire sortir les selles pendant son couche. Et que justement. Néanmoins, en soi, ça ne va pas gêner vraiment la pratique de la chenille parce que justement, si le matin, il est avec le parent, le parent peut très bien lui proposer d'aller à la selle ou au pot. Et après, le soir également. Donc, on peut faire très bien le matin, et le soir et le week-end. Quoi.
Très bien. D'accord, ok.
Donc, ça perturbe l'enfant. Ensuite, moi, j'ai espoir. Je me dis quand même que quand l'enfant est confié chez quelqu'un et qu'il voit qu'un enfant, justement, il est en train de faire caca et qu'il sait qu'il est au courant, justement, qu'il y a, en plus, en proposant que le pot, que pour le caca, on peut le faciliter. Je pense que c'est un peu plus difficile de voir un bambin, quelque part, un enfant un peu plus grand, de ne pas répondre à son besoin. En fait, quand ça reste un tout petit bébé, ben, on va dire que ben, ce n'est pas grave, fait dans la couche. Voilà, parce qu'on ne sait pas comment faire un petit bébé en réalité. Mais quand c'est un enfant qui commence à marcher...
Puis c'est une question de communication, j'imagine aussi. C'est-à-dire que si on explique au mode de garde que l'enfant, il est habitué à communiquer sur ses besoins-là et que donc quand il montre un certain signe ou quand il se comporte d'une certaine manière, il faut l'accompagner sur le pot, sur les petites toilettes à la crèche ou ce genre de choses, j'imagine que ça doit quand même pouvoir se faire assez facilement.
Et ça, en fait, il n'y a pas de différence entre un enfant entre guillemets, de 18 mois et un enfant de 24 mois ou de 20 mois, en fait, à partir du moment la communication est plutôt claire et on l'amène juste au moins pour la petite commission. Quoi.
Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, pour les plus petits, selon toi, c'est quel est le meilleur endroit pour les aider à éliminer?
Alors, quand ils sont tout petits, hein, bah, en fait, ça peut être justement sur le parent. C'est-à-dire, en fait, on imagine qu'on met beaucoup d'autres habitudes, mais pas du tout. C'est-à-dire que dès la naissance, lors du pot à pot, voilà, qu'on fait souvent du pot à pot quand il est tout petit, on pose une serviette qui recouvre le bébé, on peut mettre un petit pot comme ça à côté, à disposition au cas où, et dès qu'il s'agite, il commence à émettre des selles, voilà, après une tétée ou un biberon, et bien, en fait, on communique et on dit « Ah, ben, je vois que tu es en train de faire caca, tu es en train de faire caca », et bien, en fait, on va mettre le petit pot là sous les fesses. Ça veut dire qu'en fait, on va, pendant qu'il est en train de... Il est déjà avec nous, en fait. C'est pas... C'est pas l'idée de bah, on va le bébé, entre guillemets, on a posé le bébé, on va le porter pour l'amener aux toilettes. C'est pas du tout à ce moment-là. On peut le faire très bien quand il est déjà avec nous.
D'accord.
Ouais, ça veut dire vraiment le fait quand il est en peau à peau et ça va pas faire plus d'action, tu vois, dans la journée qu'autre. Ça peut être également, j'aime bien le dire, au moment par exemple, d'un déshabillage. Par exemple, on va sortir, et bien dans ce cas-là, autant le déshabiller, vérifier peut-être qu'il y a couché les plaines, pas en général, c'est ce qu'on fait, hein, et proposer le pot.
Quand on enlève la couche, ça arrive assez régulièrement que finalement, la miction, elle arrive à ce moment-là. Donc, en parlant avec toi, je me dis, mais en fait, ça a du sens de se dire, ben, quand on enlève la couche, on propose d'aller quelque part pour éliminer, et puis ça va se faire à ce moment-là, en fait.
Exactement, en fait, on ne va pas forcément, enfin, moi je le dis bien en tout cas, on ne va pas forcément se rajouter des nouvelles contraintes dans notre emploi du temps déjà très très chargé de jeunes parents. Voilà, on le fait en même temps, quoi, en fait. en même temps qu'on fait une des routines de soins.
Et est-ce que on peut la pratiquer pendant un temps? Et puis, s'il y a un temps où on est moins dispo, moins alerte, moins l'abandonner et puis revenir plus tard?
Oui. Dans ce cas-là, pareil, on peut très bien communiquer à l'enfant. Et ça peut être même pas forcément quand on n'est pas dispo sur une longue période, par exemple. On peut très bien dire à l'enfant, à la maison, voilà, j'ai un coup à disposition, je peux te le proposer. Mais vraiment, dehors, je ne suis pas à l'aise et on va prendre la voiture. Lui expliquer en fait que là, en fait, je ne pense pas être en mesure de répondre à ton besoin aussi facilement. Et peut-être que maman aussi sera très occupée à vouloir parler avec ses copines.
C'est ça.
Et l'enfant, il comprend très, très bien. Il se dit, bon, bah, OK, dans ce cas-là, eh ben, la couche, c'est un lieu d'élimination pour lui, en fait. Voilà, OK.
Okay.
Il sait qu'il peut le faire. Et pareil, quand on est malade, on peut très bien lui dire, ou quand on n'est pas du tout disponible, bah, en fait, non, je ne peux pas répondre. Et comme je le dis, ça devient un peu plus compliqué, justement, quand on sait que le besoin d'élimination des selles, voilà, il est très évident. Mm-hmm. Même si on n'est pas disponible, on va rarement lui dire fais dans ta couche. Une fois qu'on a commencé, on va dire, cette démarche-là, pour les urines, bon, OK, ça passe encore, mais je pense que pour les selles, on a un peu...
C'est plus compliqué.
Oui, on a un peu plus mal au cœur, un petit peu, en se disant, bah, en fait, c'est vrai...
Oui, je comprends qu'il n'ait pas envie de le faire dessus.
Oui, exactement. En fait, voilà, parce qu'en fait, on est déjà dans une démarche voilà, de communication, de répondre.
OK. Du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quelque part, pratiquer la HNI, ça ne veut pas dire diaboliser la couche et se dire que la couche, ce n'est pas du tout adapté et tout ça. Non, c'est juste que la couche est un autre moyen de recueillir les éliminations et qu'il faut qu'elle soit présentée comme telle, en fait.
Mm-mm. Oui, bien. Comme en back-off, quoi, au cas où.
Ouais. C'est ça, OK. Et alors, la dernière question que j'ai, c'est sur la propreté la nuit.
Oui.
Parce qu'effectivement, alors il y a les signes dans la journée, ça, OK. Mais la nuit, que ce soit sur des petits ou que ce soit sur des plus grands, comment on fait pour faire cette transition de « je ne fais plus pipi dans mon lit ou dans ma couche la nuit, mais je fais pipi le soir avant de me coucher et le matin et je me retiens au milieu ?»
Alors, je pense que c'est nécessaire de rappeler qu'il y a plusieurs facteurs qui sont nécessaires, voilà, sont présents pour dormir sans ressentir le besoin d'uriner. Donc, il y a une action qui est liée aussi aux hormones antidiurétiques, donc la vasopressine. Il faut qu'elle soit en quantité suffisante. Il faut également une capacité volumique de la vessie, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment grande pour recueillir justement toutes les urines qui ont lieu, donc qui vont s'accumuler pendant la nuit. Ça dépend de la nuit de l'enfant, hein, si elle est longue ou courte en plus. Également la maturation du système nerveux et également une répartition un peu équilibrée des liquides de la journée. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous, de notre environnement. Voilà, qui c'est pas lui qui choisit. Et chez certains, ouais. Donc la continence nocturne, on appelle ça, elle sera effective parfois avant la continence de jour, la continence diurne. Bah, tandis que d'autres, ça prendra plus de temps. On va dire que l'âge moyen au niveau des études, ça peut être entre 3 et 5 ans.
Oui, donc il n'y a pas d'urgence à enlever la couche la nuit et à faire que son enfant soit propre la nuit, enfin, soit continent la nuit, quelque part.
En fait, à partir de 5 ans, là, on pourra parler justement d'énurésie, mais pas avant.
D'accord. OK, donc jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, on ne s'affole pas. C'est normal que, quelque part, il ait encore sa couche et qu'il fasse encore des éliminations dans sa couche la nuit.
Après, on peut néanmoins accompagner son enfant quand même dans cette étape-là, c'est-à-dire voir déjà comment ça se passe déjà. Donc, sa nuit, est-ce que déjà nous, on est prêt à lui retirer la couche culotte absorbante, enfin, ou la couche... et voir comment il réagit. En fait, il y a plein d'astuces et ça dépend vraiment des enfants. Moi, ça dépend de l'âge aussi. J'axe pas mal sur l'autonomie parce qu'il y a à partir d'un moment, il y a un âge où l'enfant il commence à ressentir un peu de la honte. Voilà.
D'accord.
Inculquer cela ou non. Voilà. Il sait quelque part que c'est pas courant, que voilà. Et puis lui aussi, il a peut-être envie justement de ne pas mouiller sa couche ou mouiller son lit aussi. C'est pour ça que l'accompagnement aussi, ça ne dépend pas que de l'enfant. Pas juste lui dire bah, retiens-toi la nuit, ça ne veut rien dire. Lui, en fait, voilà, il peut pas être le seul responsable quelque part. Le parent, il peut l'aider, par exemple, en mettant un système des fois d'accès aux toilettes la nuit aussi.
que ça peut être intéressant, par exemple, de leur donner une petite lampe ou ce genre de choses pour que la nuit, ils puissent aller aux toilettes. Ça peut aider.
Une petite lampe ou le pot à disposition dans la chambre, voilà, vraiment juste au cas où, parce que nous, on n'est pas à la place de l'enfant. On ne sait pas ce qu'il ressent la nuit. Donc, si lui ressent le besoin et qu'il a besoin d'y aller, peut-être, en effet, qu'il y aille, quoi. Je veux dire, ça peut être comme nous aussi. Il y a des nuits où on n'aura pas besoin de se lever la nuit, puis il y a des nuits, parce qu'on a bu une tisane, dormir. Alors, on ne va pas s'en empêcher de se lever. Donc, pareil pour l'enfant, voilà, proposer une petite lampe, proposer le pot à côté, s'il est encore au pot. Ou bien, si jamais on ne veut pas lui mettre de couche, mais qu'on veut quand même qu'il dorme avec un lit, parce que voilà, et ça arrive aussi qu'il ait le lit propre, hein, quelque part, il ait le lit au sec.
Oui.
Et bien, on peut très bien mettre un système d'alaise avec un drap par-dessus, mais également une alaise, encore un drap par-dessus, vraiment au moins 4 couches. Pourquoi ? Parce que si jamais la nuit, le lit est trempé, on peut retirer justement le drap qui est trempé avec l'alaise, et en dessous, en fait, en général, l'alaise, elle a fait barrière, le drap en dessous, il est encore sec, et avec l'alaise en dessous.
Ça évite aussi pour nous, en tant que parents, de devoir refaire tout le lit pendant la nuit.
C'est ça, parce que malgré tout, voilà, l'enfant, il va le sentir, et nous-mêmes, on va être agacés, ce qui est normal, hein, la nuit, c'est précis. On n'est pas là pour dire qu'on est tout le temps zen et positif. Mais en fait, en mettant des petits systèmes comme ça, on va permettre de dédramatiser et de faciliter l'enfant. Par exemple, ce système-là, il peut durer un peu plus longtemps pour un enfant qui est plus grand et que de lui-même, il est capable de retirer le premier drap, puis la laisse, le mettre dans un bac à linge, lui mettre des vêtements propres à disposition. Parce que, voilà, peut-être qu'il a envie de gérer ça aussi tout seul. Mais pour les enfants plus grands, on est d'accord. Hein,
ouais, mais c'est intéressant. J'aime. D'avoir un système qui lui permette de se gérer en autonomie et de ne pas avoir besoin de nous réveiller, nous, s'il y a un accident de pipi de nuit, quoi.
Oui, voilà, parce que ça peut arriver, mais...
Ok, super. Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Je trouve ça très intéressant. J'aurais adoré avoir ça quand mes enfants étaient plus petits. Est-ce que toi, tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet ?
Non, je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes.
Bah écoute, j'espère que ça donnera envie à plein d'autres parents de faire un peu plus attention aux signes de leurs enfants et de les accompagner plus tôt dans l'acquisition de la continence.
En fait, pour moi, finalement, c'est pas tant d'accompagner plus tôt, c'est vraiment de l'accompagner tranquillement pendant le processus sans se mettre la pression. Alors dans ce cas, s'il y a un dernier thème, c'est bien cela. Penser que l'enfant va tout faire en 3 semaines, on peut lui mettre beaucoup de pression, je trouve, sur l'enfant, en sachant que nous-mêmes, on reçoit la pression parce qu'on se dit qu'il y a des instances comme l'école, alors que voilà, c'est un peu un cercle vicieux, alors que là, quand on prend le temps, finalement, on se dit que l'enfant il va acquérir une étape, puis une autre, puis une autre. Tout gérer en une seule fois.
Oui, donc c'est important de se dire que ça prend du temps et que donc c'est pas, on s'y met pas le 15 août pour le 1er septembre pour la rentrée de l'école, quoi. Ok, bon bah écoute, super, merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez sûrement compris au fil de l'épisode, la clé est la verbalisation et la communication, et il n'y a pas d'âge trop petit pour commencer. Dans cet épisode, Rokia cite le guide des couches lavables de Marianne Bretel. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Je vous mets également le lien vers son livre, L'hygiène naturelle infantile, se passer des couches dès la naissance. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. head to go.acast.com/closer to get started.